Bienvenue. Bon, ce qu'on va essayer de faire depuis quelque temps déjà avant l'été, on avait demandé de faire un survol de l'Église chrétienne. C'est très difficile à faire, c'est le tri qu'il faut faire parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire puisqu'on n'a pas assez de temps. Et donc, il y a d'autres ici qui sont des amateurs dans l'histoire de l'Église aussi qui pourraient peut-être faire mieux que moi. Mais j'espère que ça sera une bénédiction pour nous tous de voir que Dieu a protégé son Église dans tous ces siècles et dans toutes ces persécutions. Dieu a protégé et il continue à construire, à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Donc quand on se demande, mais qu'est-ce que c'est l'histoire de l'Église chrétienne, on se demande tout de suite, qu'est-ce que c'est l'Église? Parce qu'il faut définir l'Église. Et nous avons des réponses bibliques qu'on peut donner, et que nous avons données, que nous donnerons certainement, mais puisqu'on fait, on parle de l'histoire cet après-midi, je vais vous montrer que même les pères de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, ont défini l'Église par la foi, et puis la foi par les Écritures. C'est-à-dire que, selon eux, la véritable Église et celle qui possède la véritable foi et qui est fondée sur les Écritures. Et je vous donne juste quelques citations. Par exemple, de Chrysostome qui dit « L'Église ne consiste pas en la paroisse, mais en la foi. Là où est la foi, là est l'Église. » Je crois qu'il y a un trou là, les enfants. « Là où la foi n'est pas, là n'est pas l'Église. » Donc, « Là où est la foi, là est l'Église. » Aussi, il a dit, « Quand cette méchante hérésie de l'Antéchrist possédera les Églises, alors il n'y aura ni preuve ni refuge pour connaître la chrétienté que la Sainte Écriture. Par elle seule, on connaîtra où sera et qui sera la véritable Église. » Ou écoutez encore Jérôme. La Sainte Église est celle qui garde la foi de Jésus-Christ en son entier. Veux-tu donc entrer en cette Église et par le droit chemin? Bien, lis les Écritures. Et puis écoutez Augustin qui dit ceci. Non, je ne l'ai peut-être pas. C'est dans les Écritures, dit-il, que nous trouvons Christ. C'est dans les Écritures que nous avons à chercher l'Église. C'est en elle et c'est par elle que l'Église nous est montrée. Les évêques, dit-il encore, peuvent errer. Plusieurs d'entre eux ont introduit des hérésies. L'Église même se couvre quelquefois de ténèbres. Le plus sûr donc est que nous cheminions au flambeau des Écritures. Et puis encore, Émile Guerre, je crois qu'on dit son nom. C'était un pasteur à Lyon au début du XXe siècle qui a écrit le livre Époque de l'Église de Lyon. Il a dit « La vraie Église de Dieu, de Christ, a toujours dû porter trois caractéristiques qui la font reconnaître au milieu du monde. D'abord, sous le rapport de ses doctrines, elle se conforme aux Écritures. » D'accord ? Par rapport à sa doctrine, elle se conforme aux Écritures. Tu peux peut-être t'asseoir avec eux pour les aider. Par ses mœurs, elle est sainte. Et puis enfin, elle a des épreuves à soutenir. Par où nous entendons que chaque fois que le Seigneur y fait briller d'un nouvel éclat le flambeau de son évangile, elle est persécutée. Donc ça c'est l'Église de laquelle nous voulons parler ces quatre semaines. Donc on va commencer comme cela, on va commencer en considérant les temps accomplis, c'est-à-dire la préparation du monde pour la venue de Jésus-Christ. En Galates chapitre 4, verset 4, vous connaissez peut-être le verset, il dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire les temps ont été accomplis. Bon, ça veut dire que tout ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu faisait à travers les prophètes et dans le monde est venu à son terme, c'était le moment pour Jésus de venir. C'était planifié, c'était pas aux dernières minutes qu'il l'a fait. Tout se préparait pour cela, et voilà les temps accomplis, il arrive. Et je crois que nous devons commencer notre survol de l'histoire de l'Église en notant le monde dans lequel elle a été fondée. Parce que dans la providence de Dieu, il a amené le temps ou les temps à leur accomplissement. Tout a été mis en place pour l'avènement, pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand on regarde le monde dans lequel Jésus est né, nous voyons qu'il était composé de trois cultures et qui était synthétisé d'une façon, dans une seule, surtout là où Jésus est né. Il y avait, d'une part, il y avait la culture juive. La culture juive était, on pourrait dire, l'âme du monde. Elle avait peu d'importance politiquement, elle était impuissante en tant que pays, mais quand même très importante sur le plan culturel. Elle avait préservé la culture biblique et surtout, elle avait préservé, elle était l'instrument choisi par Dieu de préserver les écrits de l'Ancien Testament. En fait, une référence que vous pouvez marquer, c'est Romains 3, 1 et 2, où Paul dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est « Quelle est l'utilité des Juifs ?» Et il dit ceci, « Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Dieu a confié ses oracles, c'est-à-dire ses prophéties, ses paroles, sa parole, on va dire, aux Juifs. Et ils ont été très utiles à préserver cette parole, intacte, et presque sans changement pendant des siècles où quelqu'un a dû copier, puis un autre a dû copier, puis un autre a dû copier, et ils ont fait si soigneusement qu'il n'y a eu presque aucun changement dans le texte. Et puis il y avait aussi la culture grecque, très présente. Là, dans, on pourrait dire l'esprit du monde, ou dans le sens du cerveau du monde. Les Grecs étaient les scientifiques et les philosophes de l'époque. Ils étaient les pères de plusieurs disciplines, par exemple la discipline de l'histoire, de la science, de la médecine. Tout cela renvoie aux Grecs. En tant que philosophe, ils se posaient les plus grandes questions de la vie. Par exemple, concernant notre origine, d'où viens-je? D'où venons-nous? Ou le but de la vie? Pourquoi suis-je là? Quel est le but de la vie? Si je ne suis pas le produit du hasard, il doit y avoir quand même un but pour ma vie. Après, la destinée, où vais-je? Ou quel est le plus grand bien? C'est des questions qui se sont posées les Grecs. Et puis, surtout, les Grecs ont fourni la langue du Nouveau Testament. Parce que, après le Nouveau Testament, il va être écrit, même si c'est souvent par des Juifs, il va être écrit dans la langue grecque. Le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque. La langue latine, qui était l'autre langue utilisée à l'époque, n'était pas en mesure de fournir toutes les nuances et les subtilités même, les toutes petites nuances de l'écriture. En fait, il y avait, j'ai appris un aphorisme latin qui disait, les latins disaient ceci, ils disaient, les Grecs ont certainement un mot pour cela. Quand ils cherchaient un mot, ils disaient, bon, les Grecs ont un mot pour cela. En fait, c'était une langue très riche. Et Dieu a choisi la langue grecque comme véhicule de la révélation éternelle. Donc, beaucoup de nos mots théologiques viennent directement du grec, même des mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc il y avait les Grecs, il y avait les Hébreux, les Juifs, et puis quelle était l'autre culture qui dominait l'époque? C'était les Romains, n'est-ce pas? Et la culture romaine. Et si on veut continuer l'analogie, on peut dire que c'est le corps du monde. Par cela, je veux dire, c'est eux qui ont fourni la structure du monde. Rome contrôlait tout le bord de la mer, de la Méditerranée, et Rome assurait la paix. La région du Moyen-Orient n'a jamais été aussi sûre, sans danger, jusqu'au 19e siècle. Et on peut se demander même si c'est aussi sûr aujourd'hui qu'à l'époque de Rome. Il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana. Vous savez ce que c'est la Pax Romana? C'est la paix qui était donnée par la force romaine. Et cette période est généralement considérée comme avoir duré, écoutez ces dates, de moins 29, c'est-à-dire de 29 ans avant Jésus-Christ, quand l'empereur Auguste a déclaré la fin des grandes guerres civiles, jusqu'à 180, c'est-à-dire l'année 180 après Jésus-Christ, à l'annonce de la mort de l'empereur Marc Aurèle. C'est incroyable, n'est-ce pas? Parce que vous prenez ces dates et Jésus est né au beau milieu là de cette paix romaine qui était accordée à toute cette région du monde. En fait, j'ai calculé, j'ai regardé sur l'internet pour aller aujourd'hui de l'Espagne à Jérusalem par voie de terre. Ah, c'est pas facile déjà. Mais il faut passer par la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Syrie. Et puis, si vous êtes toujours en vie, hein, après avoir traversé toute la Syrie, vous arrivez en Israël. À l'époque, c'était essentiellement un seul pays. Et c'était politiquement un seul monde avec deux langues, toutes les deux qui étaient universelles. Il y avait le latin, il y avait le grec. Et on pouvait trouver partout des gens qui parlaient une ou normalement les deux langues. Et donc c'était dans ce monde, un monde qui était à son mieux dans beaucoup de domaines, que Dieu a envoyé son Fils pour montrer que l'homme, même à son mieux, a besoin de Dieu et ne peut rien faire tout seul. Donc ça, c'est le monde dans lequel Jésus est venu. L'Église a été établie et déjà, je crois qu'il y a beaucoup pour lequel on peut adorer Dieu pour sa providence dans tout ce qu'il a fait en préparant la venue de Jésus-Christ. Comment diviser les périodes de l'histoire? J'ai trouvé plusieurs moyens et il n'y a pas une seule qui est correcte, mais pour être le plus facile, je l'ai fait comme ceci. J'ai pris de mon prof, en fait, de l'histoire. L'histoire de l'Église ancienne, on va dater de l'an 30, hein, la fondation à peu près de l'Église, jusqu'à l'année 590, donc de 30 à 590. Et on expliquera pourquoi l'année 590 après. Après, il y a l'histoire de l'Église médiévale, qui va de 590 à 1517, après Jésus-Christ. Et vous savez peut-être pourquoi cette date est importante. Qu'est-ce qui s'est passé en 1517? Il y a un moine qui s'appelle Martin qui arrive sur la scène. Et puis, l'histoire de l'Église moderne, bon, on inclut jusqu'au présent. Voilà. Voilà, donc on commence donc avec l'histoire de l'Église ancienne. Comment subdiviser cette période de temps? D'abord, il y avait l'âge des apôtres. L'âge des apôtres qui va de 30 jusqu'à à peu près l'an 100 après Jésus-Christ. Un peu après la mort de l'apôtre Jean. Le Nouveau Testament, quand nous prenons notre Nouveau Testament, surtout quel livre? C'est quel livre dans le Nouveau Testament qui décrit les événements qui ont amené l'ère chrétienne ou l'ère de l'Église en existence? C'est surtout les actes des apôtres, n'est-ce pas? La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est dans les évangiles, la venue du Saint-Esprit, la prédication de l'évangile aux juifs de Palestine et aux juifs païens dispersés à travers le monde. Et donc le livre des Actes nous donne l'établissement de l'Église et termine avec Paul, qui est connu comme l'apôtre aux païens, en prison à Rome. Et la période de temps décrite par les Actes des apôtres est à peu près les années 30 à 64, donc de 30 à 64 après Jésus-Christ. Et pendant cette période de temps, la plus grande opposition contre l'Église vient des Juifs. Les autorités romaines étaient pour la plupart tolérantes envers l'Église, sachant peut-être qu'ils étaient des citoyens respectueux de la loi, peut-être ils appréciaient le fait que les chrétiens étaient enseignés et commandés même de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, 1 Timothée 2:2. En tout cas, pendant la période des temps décrits par les Actes des Apôtres, les empereurs laissaient les chrétiens essentiellement libres. Et c'est vrai que Paul était emprisonné, mais c'était à cause des Juifs, en fait. Et tout nous donne raison de croire que lorsqu'il est finalement apparu devant Néron, il a été, la première fois, il a été libéré. Et il dit même aux Philippiens qu'il espérait être libéré pour revenir leur voir bientôt. C'est quelque chose qu'on a vu récemment en Philippiens. Donc au début, la persécution venait des Juifs. Mais tout cela a changé à une époque dans la vie de Néron. L'empereur Néron, qui a régné de l'année 54 à 58, après Jésus-Christ, Néron était un personnage très très intéressant. Sa mère, Agrippine, avait été bannie comme un danger politique quand il avait que 3 ans. Et donc Néron avait été élevé par 2 esclaves, un coiffeur et un danseur. Donc déjà ça montre un peu son éducation là. Et quand son oncle Claude devient empereur dans l'année 41, sa mère a pu retourner à la maison et a reçu de nouveau son honneur, sa position d'honneur. Et puis elle a persuadé son oncle Claude de l'épouser, elle. Elle était sa 4e femme. Claude avait déjà 2 enfants, un fils nommé Britannicus et une fille appelée Octavie. Et donc Agrippine, la mère de Néron, a réussi à fiancer Octavie, c'était la fille maintenant de son mari, à Néron. Et donc elle a pu après persuader à Claude de l'adopter. Et vous voyez ce qu'elle a dans la tête. Et donc, puisque Néron était plus âgé que son demi-frère maintenant, Britannicus, il a été placé en ligne pour devenir l'empereur suivant. Claude, donc, est empoisonné. Maintenant, il a tout mis en place, on n'a plus besoin de lui. Et on soupçonne que c'était sa chère femme, en fait, qui l'a fait. Et après que Néron est devenu empereur, il a empoisonné Britannicus, son demi-frère. Et puis, par gratitude envers sa mère, parce que c'est elle qui a tout arrangé pour qu'il devienne empereur, il a assassiné sa propre mère à sa 2e tentative. La première qui n'a pas réussi, c'était par la noyade. La seconde, en poignardant sa mère, a été réussie. Et puis, il a assassiné sa mariée, Octavie. Donc, vous voyez quel type d'homme c'est. Il a tué sa 2e épouse pendant qu'elle était enceinte, en lui donnant des coups de pied sans cesse. Il a mis, on suppose, le feu à Rome dans l'année 64. Et les historiens disent peut-être c'est pas lui qui l'a fait. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de monde à Rome disait que c'était lui. Donc ça démontre quand même l'attitude des Romains envers leur propre empereur. Ils le soupçonnaient de l'avoir fait, même s'il ne l'a pas fait. Et donc un peu pour se protéger, Il a tenu les chrétiens de Rome comme responsables et les a fait torturer. Il les roulait dans une sorte de bitume, mettait le feu, les employait comme des torches humaines pour éclairer son jardin. Il les causait dans des peaux d'animaux et puis lassait chez ses chiens pour aller les attaquer comme ça. Il y avait presque pas de crime que Néron n'a pas commis. Et Tacite, qui est un historien et sénateur romain qui est né en 58, il nous rapporte un peu ce que fait. Donc ça c'est un homme qui n'est pas chrétien lui-même. Hein. Mais écoutez ce qu'il dit de Néron. Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, c'est-à-dire l'empereur Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimer un instant cette exécrable superstition, il parle du christianisme, se déborder de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et sur leur révélation, une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par les chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en plaçant de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque. Vous voyez que Tacite, qui a vécu juste après Néron, il n'a aucune sympathie pour les chrétiens, mais il admet que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés, ces chrétiens. Il admet que c'est par haine que Néron fait cela. Une autre chose que nous apprenons de l'histoire tout au début, c'est l'attitude des apôtres face à l'hérésie. L'apôtre Jean est le dernier des apôtres à mourir, et probablement le seul à mourir d'une mort naturelle. Déjà dans les chapitres de Paul, nous voyons Paul en train de combattre les hérésies gnostiques. Mais il y avait un faux docteur qui parcourait la Palestine et l'Asie mineure, en même temps que les apôtres, qui s'appelait Sérinthe. Et les renseignements les plus anciens nous proviennent d'Irénée, c'est un pasteur à Lyon, deuxième siècle. Et Irénée nous dit que Sérinthe enseignait que Jésus est le fils de Joseph et Marie, et que à son baptême, le Christ est entré dans l'homme Jésus, d'accord, est resté dans l'homme Jésus jusqu'avant sa mort, et puis le Christ est parti de Jésus, et donc c'est l'homme Jésus qui est mort. Le Christ n'est pas mort, parce que le Christ est spirituel et ne peut pas souffrir, ne peut pas mourir. Et Jean s'opposait violemment à cette hérésie, et nous voyons cela même dans ses écrits. Par exemple, en 1 Jean 2, il nous dit « Qui est le menteur selon celui qui nie ?» On va bien y arriver. « Qui est menteur selon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Vous voyez, combattait l'hérésie qui disait « Jésus, le Christ est entré dans Jésus, mais Jésus c'est un homme, tout simple, et le Christ est venu et habiter son corps. » Et Jean dit non, c'est un menteur celui qui dit cela. Et il nous dit même comment il faut réagir face à ces hérétiques. En 2 Jean, il dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut », car celui qui le dit, qui dit « Salut », l'idée que Dieu vous bénisse, participe à ses mauvaises œuvres et donc il ne faut même pas lui donner la bénédiction, c'est-à-dire. La carême, la bénédiction de Dieu. Et donc, Irénée, qui avait appris cela de Polycarpe, qui était un disciple de Jean lui-même, et il nous dit qu'un jour, Jean se rendait au bain à Éphèse, et il est entré là, il a trouvé Sérinthe dedans, et aussitôt, Jean est parti en courant, et en criant, « Sauvons-nous de peur que les termes ne s'écroulent, car à l'intérieur se trouve Sérinthe, l'ennemi de la vérité. » Vous voyez, même pas, il voulait même pas se voir au bain public avec ces hérétiques. Donc ça, c'est un peu ce que nous savons, pas beaucoup de l'âge des apôtres, qui nous apporte jusqu'à l'an 100. Et après cela, nous avons ce qu'on pourrait appeler l'âge des martyrs. Le sang est à l'année 313. Et là, nous avons plusieurs personnes intéressantes, personnages intéressants, qui nous interpellent par leur amour pour Christ et la souffrance qu'ils ont connue. Une histoire qui date de l'année 112 se trouve dans les lettres échangées entre Pline le Jeune et l'empereur à l'époque, l'empereur Trajan. Pline le Jeune, vous voyez une statue de lui ici. Il était témoin à l'âge de 17 ans de l'éruption de Vésuve en Italie, qui s'est passé dans l'an 79. J'ai pu visiter une fois, quand j'étais adolescent, Vésuve, et c'est impressionnant de voir une montagne entière qui tombait sur une grande ville et qui a tué tout le monde. Son père, en fait, y est mort. Et à l'époque où il écrit cette lettre, il était gouverneur de la Bithynie. Ça, c'est mentionné en Actes 16, 7 et en 1 Pierre 1, 1, la Bithynie. Et il écrit à l'empereur Trajan, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec les chrétiens dans sa province. Donc il lui demande un peu de conseil, et lui il explique un peu ce qu'il fait avec les chrétiens. Et ça c'est sa lettre, nous l'avons toujours. Regardez, écoutez ce qu'il dit. J'hésite beaucoup sur la différence des âges entre les chrétiens. Faut-il les assujettir tous à la peine, sans distinguer les plus jeunes des plus âgés? Doit-on pardonner à celui qui se repente, ou est-ce inutile de renoncer au christianisme quand une fois on l'a embrassé? Est-ce le nom seul que l'on punit en eux, ou est-ce les crimes attachés à ce nom? Cependant, voici la règle que j'ai suivie dans les accusations inventées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s'ils étaient chrétiens. Ceux qui l'ont avoué, je les ai interrogés une seconde fois. Et je les ai menacés de supplice, c'est-à-dire de tourmente. Hein. Il y en a eu d'autres, entêtés de la même folie que j'ai réservée pour envoyer à Rome, parce qu'ils sont des citoyens romains. Vous voyez, des citoyens romains sont quand même traités différemment. On m'a remis entre mes mains un mémoire sans nom d'auteur, c'est-à-dire quelque chose anonyme, hein, ce qui fait dégâts toujours aujourd'hui dans la politique. Il y a une lettre anonyme qui est écrite, et puis voilà, il reçoit une lettre anonyme où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et de n'en avoir jamais été. Elles ont en ma présence et dans les termes que je leur ai prescrivés, invoqué les dieux et offert de l'encens et du vin à votre image, que j'avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités. Elles se sont même emportées en imprécation contre Christ. C'est à quoi, dit-on, l'on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. C'est intéressant, c'est qu'ils savaient déjà du christianisme. Il dit, si ils ont maudit le Christ. Et j'ai appris que si un véritable chrétien ne peut jamais faire cela. J'ai donc cru qu'il fallait les absoudre. Et puis dans cette même lettre, il nous donne, et vous trouvez cette lettre en entier sur Internet, et il nous donne une idée de ce que pratiquaient les chrétiens, parce qu'il essaie d'expliquer à l'empereur, il dit, ce que j'ai appris qu'ils font, c'est à un jour marqué, ils s'assemblaient, ou ils s'assemblent avant le lever du soleil, ils chantent tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il était Dieu, et il s'engage après par serment, non à quelques crimes, vous voyez, il admet que ce ne sont pas des malfaiteurs, ils ne s'engagent pas à faire des crimes ensemble, mais à ne point commettre de vol, ni d'adultère, et à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt, qu'après cela, ils avaient coutume de se séparer et ensuite de se rassembler pour manger en commun les mets innocents. Et puis il dit plus tard, il dit, l'affaire m'a paru digne de vos réflexions, parce qu'il doit quand même expliquer que c'est quelque chose d'important pour embêter l'empereur avec cette lettre. Mais je pense que c'est digne de vos réflexions par la multitude de ceux qui se sont enveloppés dans ce péril. Donc ça c'est l'an 150, hein. Il y a une multitude déjà qui sont
enveloppé dans ce dans cette fausseté selon lui, car un très grand nombre de personnes de tout âge, de tout ordre, de tout sexe sont et seront tous les jours impliqués dans cette accusation. Donc, si tu me donnes des ordres, il dit l'empereur, ça va impliquer beaucoup de personnes, il dit. Ce mal contagieux n'a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Je crois pourtant que l'on peut y remédier et qu'il peut être arrêté. Et l'histoire a montré qu'il n'avait pas raison grâce à Dieu. Mais vous voyez déjà que le christianisme grandit à grands pas et que Dieu le bénit. Et nous avons très peu d'informations concernant le deuxième siècle, mais il est fort probable que le nombre de chrétiens a considérablement augmenté. Ce que nous savons, c'est que Tertullien, autour de l'année 150 encore, il a pu dire cela pour l'empereur encore. Il a dit, lui il écrit en tant que chrétien, il dit, nous ne sommes que d'hier, et nous remplissons les villes, les châteaux, les îles, les bourgades, les tribus, les tribunaux, les armées, les palais du prince, le Sénat même. Tout votre empire, nous ne vous laissons que vos temples. Et puis plus tard il dit, ô prodige, on accablait les chrétiens de tourments, et ils se multipliaient sans mesure. Et leur sang répandu devenait comme un germe fécond qui produisait des milliers d'autres chrétiens. Une phrase qui est devenue très célèbre. Que leur sang répandu dans la persécution est devenu, dans la grâce de Dieu, un germe fécond qui a créé des milliers d'autres chrétiens. Quelqu'un d'autre à l'époque, un chrétien, un pasteur, c'est Ignace d'Antioche. Lui, il est né vers l'année 35. Il était peut-être petit enfant quand Jésus exerçait son ministère. En tout cas, il était pasteur dans la ville d'Antioche pendant près de 40 ans. Il était disciple lui-même de Jean. Il avait probablement été installé dans cette église par les apôtres eux-mêmes. Et quand Ignace était très avancé en âge, l'empereur Trajan encore, qui a régné de l'année 98 à l'année 117, il a visité Antioche, qui était une des villes les plus importantes de l'Est. Et on lui a parlé d'un de ses pasteurs chrétiens, et il a demandé de le voir. C'était pas parce qu'il avait du respect pour le christianisme, loin de là. Quand il le voit, il dit ceci, il dit, c'est donc toi, vilain démon, qui insulte nos dieux. Et puis Ignace répond, nul autre que vous n'a jamais appelé Théophore un mauvais démon. Et l'empereur lui dit, mais qu'entends-tu par ce mot Théophore? C'est le mot qu'il a pris pour lui-même. Il dit, celui qui porte Jésus-Christ en son cœur, Théo, et Dieu, en moi, c'est le nom qu'il donnait pour lui-même. Je porte Jésus-Christ dans mon cœur. Et l'empereur lui dit, crois-tu donc que nous ne portons pas nos dieux dans nos cœurs? Vos dieux, ce ne sont que des démons. Et il n'y a qu'un Dieu créateur, un Jésus-Christ, fils de Dieu, dont le règne est éternel. Il a été, bien sûr, emprisonné. Et le lendemain, il a terminé l'interrogatoire par ces belles paroles. Je ne sacrifierai point, c'est-à-dire il voulait qu'il sacrifice aux idoles de Rome, je ne crains ni les tourments, ni la mort, parce que j'ai hâte d'aller à Dieu. Il a été tout de suite envoyé vers Rome, ça a pris du temps, il a pu visiter en fait d'autres églises, l'église de Smyrne parmi d'autres, en voyageant à Rome, un peu comme Paul avait fait, pas longtemps avant lui. Et il était amené ici au Colisée de Rome, à l'origine l'amphithéâtre Flavian, qui était construit pas longtemps avant cela. Et il a été donné comme pâture aux bêtes, en fait. Il est mort comme cela. Et parmi ses derniers mots, il a dit ceci. Il a dit, je vais à la mort avec joie. Laissez-moi servir de pâture aux lions et aux ours. Je suis le froment de Dieu. Il faut que je sois moulu sous leurs dents pour devenir un pain digne de Jésus-Christ. Rien ne me touche, tout m'est indifférent. Hors l'espérance de posséder mon Dieu. Il a été dévoré par un lion et on nous dit qu'il répéta le nom de Jésus jusqu'au dernier soupir. Ça, c'était vers l'an 107 ou 113 vers là. Donc, si la résurrection de Christ a paru en l'année trentaine vers là, c'est moins de 100 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Et de plus en plus, les chrétiens sont envoyés à Rome pour servir d'amusement aux Romains qui cherchaient encore plus et plus d'amusement. Bien sûr, à l'époque, ils s'entretuaient entre eux avec des gladiateurs, mais quand on pouvait trouver un chrétien, c'était toujours à l'amusement de la foule. Et puis un autre homme qu'il faut se souvenir de cette époque, c'est Polycarpe de Smyrne. Vous connaissez peut-être la ville de Smyrne, c'est une des sept églises en Apocalypse. Polycarpe est né vers l'année 69, mort vers 155. Il était un disciple personnel de Jean, l'apôtre Jean, c'est-à-dire il a connu, il a été enseigné par Jean. Et c'est lui qui nous rapporte ce que Jean a fait quand il a vu Sérinthe au bain d'Éphèse. Et il a été nommé évêque ou pasteur de Smyrne, et il a rempli les fonctions de son ministère pendant environ 70 ans. Pasteur très longtemps dans cette ville. Et c'est lui qui a accueilli Ignace, dont on vient de parler, qui était condamné à mort, et en route vers Rome, il a accueilli dans sa ville, et les deux pasteurs deviennent des amis, et plus tard, Ignace va lui écrire de Rome pour lui demander d'envoyer des pasteurs à Antioche, à son église, pour aider son troupeau à Antioche, et c'est des lettres que nous avons encore aujourd'hui. Mais lorsque la persécution commandée par l'empereur philosophe Marc Aurel éclate, Polycarpe est très âgé. Et il est amené devant le proconsul de la ville qui l'interroge et qui lui dit « Es-tu Polycarpe ?»« Oui, je le suis. » »« Aie pitié de tes cheveux blancs. Maudis le Christ et tu seras libre. » Écoute la réponse. Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? Fais-les venir, pensez à un homme à 90 ans, fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Et il dit, je ne crains que le feu qui brûle les impies et qui ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Et là, bien sûr, il est tué. C'était vers l'an 155. Donc, quand nous regardons les persécutions romaines, surtout, nous voyons qu'elles sont venues en trois phases, surtout. D'abord, sur Néron, c'est un peu la première phase, c'est des persécutions personnelles et isolées. C'est après l'incendie de Rome, par exemple. Sous Trajan, c'est plutôt la politique provinciale, c'est-à-dire chaque province va pouvoir décider pour elle-même ce qu'elle va faire avec les chrétiens. Et dans la lettre que Trajan renvoie à Pline le Jeune, nous voyons qu'il lui laisse un peu libre. En fait, il lui dit, ne cherche pas les chrétiens. Si on vous les amène, là, il faut les interroger, mais ne va pas les chercher. Mais sous l'empereur Dèce, ça devient une politique impériale. C'est-à-dire, pour la première fois, dans tout l'Empire de Rome, c'est un crime d'être chrétien. Le simple fait d'être chrétien est considéré comme un crime. Il y avait même un papier, j'oublie le nom maintenant, qu'on pouvait procurer, qui était un peu comme une carte d'identité, qui était signée par un procureur et qui disait que vous avez fait obédience aux idoles. Et donc les païens les portaient pour prouver qu'ils n'étaient pas chrétiens en fait. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient peur d'être identifiés. Parce que si on n'aimait pas quelqu'un, on pouvait toujours dire, bon, il est chrétien, lui, et donc il fallait se protéger. Dèce, l'empereur Dèce, est empereur pendant 3 ans, c'est tout. 249 à 251. À l'époque, bien sûr, on ne datait pas les années selon Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça c'est venu après. Selon la tradition romaine, la ville de Rome a été fondée en 754 avant Jésus-Christ. Donc pour eux, ça c'était l'année de la ville. On disait Anno Urbi, l'année de la ville 1. Donc ce qui est intéressant, quand Dèce devient l'empereur, il devient l'empereur dans l'année de la ville 999. L'an que nous disons 250 ans après Jésus-Christ est l'an 1000 de Rome. Et bien sûr, étant l'an 1000, ça nous apporte à des grandes festivités, des grandes célébrations aux dieux de Rome qui ont protégé cette ville pendant 1000 ans. Et la meilleure façon d'honorer les dieux de Rome qui l'ont protégé était de persécuter les athées. Et les chrétiens étaient appelés par des Romains des athées, parce qu'ils niaient l'existence des dieux. Rome avait un panthéon, et ce panthéon était dans quelle forme? C'était un cercle, hein, comme celui à Paris, je crois, j'ai jamais été. Pourquoi un cercle? Parce que tous les dieux étaient mis au bord, aucun dieu était mis devant les autres, quoi. Était prioritaire, voilà, comme ça. Ils avaient tous égal, on va adorer tous ces dieux, donc ils étaient tous à la même distance du centre de ce panthéon. Et les chrétiens étaient les athées, parce qu'ils niaient l'existence de ces dieux. Et donc ça, c'est devenu la plus grande, la plus intense des persécutions connues par les chrétiens sous l'Empire romain. Et donc, pour se protéger, les chrétiens de l'époque ont dû être créatifs, ils ont dû créer des choses pour se protéger, pour se connaître. En se parlant, on ne pouvait pas dire ouvertement « je suis chrétien », il fallait trouver des signes. Et une des plus connues, surtout aujourd'hui, était le signe du poisson. Et poisson, en grec, est quoi? C'est quoi le mot grec pour poisson? Ictus. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le poisson est devenu important comme symbole? En fait, c'était, on peut dire, un jeu de mots. Hein, un jeu de mots. Parce que ça formait un acrostiche. Vous avez le mot poisson, qui est ictus, là, écrit sur la gauche, ou dans le poisson ici, ou dans les lettres que nous connaissons mieux en bas. I était la première lettre de Jésus, vous savez qui c'est Jésus. Qui, la première lettre de Christos, vous savez Jésus, Christos. Et puis le Tau, TH, c'est la première lettre de Théas, Théo, Dieu. Donc nous avons, dans la forme écrite comme là, nous avons Jésus-Christ de Dieu. Et puis, Yos est le mot croix. Fils, d'accord. Et puis à la fin, le sauter. Sauter veut dire quoi? Il est le sauter. Il est le sauveur. Et du monde. Donc, il y avait cette acrostiche. Et si on les mettait ensemble, ça. Ictus. Mais Ictus, c'était un poisson. Hein? Et donc, c'était ce symbole. Dans le symbole du poisson, il voyait Jésus-Christ. Le fils de Dieu, notre Sauveur. Et souvent, dans une conversation, ils allaient introduire peut-être ce mot, ou ils allaient faire même carrément le symbole pour indiquer à l'autre qu'ils étaient chrétiens, pour voir comment l'autre allait réagir. Et puis, à cette époque, nous avons aussi, nous connaissons que les chrétiens ont découvert et ont commencé à utiliser les catacombes de Rome. Voici une photo. Le mot catacombe vient du grec kata, qui veut dire en bas, et puis tumbos, qui veut dire tombe. Les tombes en bas, souterrains, ce sont en fait des sépultures souterraines, dans lesquelles les chrétiens de Rome, notamment, enterraient leurs morts lors des premiers siècles de l'Église primitive. Aujourd'hui, nous savons que parmi les 65 catacombes connues à Rome, il y a au moins 600 kilomètres de catacombes. Vous imaginez 600 kilomètres de ces de ces passages souterrains. Et donc c'est ici que les chrétiens enterraient surtout leurs morts, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire avec les païens. Et c'est ici, dans ces catacombes, que nous trouvons beaucoup d'images utilisées par les chrétiens. Par exemple, il y a plein d'images qui existent toujours aujourd'hui. Là, nous voyons Christ, le bon berger. Ça vient du catacombe de Domitilla et ça date du 3e siècle. Nous voyons aussi l'encre. Vous voyez ici à gauche, il y a l'encre. Ça, pour vous, c'est un symbole de quoi? Pour eux, c'était, je crois, un symbole de l'espoir, surtout, d'après ce que j'ai lu. Et puis, au milieu, vous avez quoi? Vous avez le ictus, voyez? Et puis, à droite, ici, vous avez vu cela avant. Des fois, on le voit toujours utilisé. C'est ce qu'on appelait le chiro. Hein? Donc, il y a trois symboles ici, qui datent ici du 3e siècle, l'encre, l'ictus et le chiro. C'est quoi le chiro? Bon, encore, c'est des lettres. Le chi, comme le X, écrit souvent CH ou CHI. C'était pour Christ. Et Rho, c'était en fait la deuxième lettre du mot Christ. Donc on dit des fois que c'est le premier monogramme du christianisme. C'est CR, hein, ou CHR, on dirait plutôt. Et ça a représenté pour eux Jésus-Christ. Un symbole que nous trouvons pas mal. Et puis beaucoup de tombes dans les catacombes. Par exemple, il y a celui-là qui dit Aurel Castus, qui a vécu 8 mois, donc un bébé. Antonio Speranzia a fait ceci pour son fils. Et puis si vous voyez l'imagerie, il y a 2 arbres de vie, hein, 2 moutons, et un bon berger entre eux, là en bas au centre, le bon berger qui prend soin de ses moutons. Et l'arbre de vie, c'est l'espérance de la résurrection. Ils n'étaient pas les seuls à faire des dessins. Hein. Comme aujourd'hui, il y avait du graffiti à l'époque. Et celui-là date du 2e siècle, je crois. Ça représente... Vous voyez, c'est un âne, en fait, qui est crucifié. Et le commentaire dit « Alexemos respecte Dieu ». Ça suggère que ce dessin raille un soldat qui a été converti. Et vous voyez comment il se moquait des chrétiens et surtout de leur Christ crucifié. Il n'est qu'un âne. Les chrétiens, au début, ont souffert beaucoup. Et puis, j'ai presque terminé, juste introduire la troisième âge ici. Nous avons l'âge des apôtres, l'âge des martyrs, et puis nous avons l'âge des empereurs chrétiens et ce qu'on appelle communément les patriarches de l'Église, qui va de 313 à 590. Pourquoi cette date? Parce que c'est l'année où Constantin le premier devient le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Donc voici pour la première fois un empereur va se convertir, va devenir chrétien. Et non seulement ça marque donc la fin d'une ère de persécution des chrétiens, mais à l'aide de l'empereur, maintenant l'Église chrétienne va prendre de l'essor en établissant la liberté de culte par le biais de l'édit de Milan en Italie. Ils avaient maintenant la liberté de se rassembler, de construire des églises, tout cela. Et ce qui est intéressant, en le voyant de loin, c'était une bénédiction et un fléau en même temps. La paix est venue, mais aussi le matérialisme. Des multitudes qui n'avaient jamais vraiment connu une conversion, qui sont vraiment pas venues à Christ, qui n'ont pas été nées de nouveau, sont entrées quand même dans l'Église. Parce que c'est ce que l'empereur a fait, c'est ce qu'on est poussé à faire, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on peut dire que la qualité a été sacrifiée pour la quantité. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, mais la qualité est beaucoup moins bonne. Le feu de la persécution qui avait gardé l'Église pure hein, est éteinte, et la tolérance a eu pour résultat l'introduction d'éléments qui allaient bientôt faire beaucoup de mal, en fait, à l'Église. L'adjectif chrétien, après cette époque, devient un terme ecclésiastique au lieu d'être uniquement personnel. Parce qu'avant, être chrétien, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, être chrétien, c'est appartenir à une église. Une église maintenant officielle. Et on dit même que la première cause du besoin pour la réformation était la christianisation officielle de Rome en 313. Et c'est intéressant que c'est à cette époque ici que le monachisme chrétien a commencé. Ça n'a pas vraiment existé avant l'année 313. L'idée de vivre à part, isolé de la société, n'est pas une idée biblique. Sous la persécution, le monachisme n'avait pas de sens. Mais le monachisme est devenu une sorte de martyr auto-imposé. Ils voyaient le christianisme autour d'eux qui était matérialiste et pas réel, et donc ils se cherchaient des martyrs imposés eux-mêmes à partir pour vivre des vies sacrées à part devant Dieu. Et donc c'est une bénédiction, on a la liberté, mais avec la liberté viennent aussi des pièges. Et c'est ce que nous voyons et que nous verrons plus la prochaine fois. Donc voici un peu un survol de l'histoire de l'Église ancienne, l'âge des apôtres, l'âge des martyrs, et puis un peu de l'âge des empereurs chrétiens. Voilà, prions.